6h03, nous sommes vendredi 11 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, ça s'annonce très bien pour la fin de semaine. D'abord, ce matin, partiellement nuageux, 7 degrés. Le soleil va s'installer et le mercure devrait atteindre 17 degrés aujourd'hui. Donc, c'est du soleil vraiment toute la journée. Demain, samedi, peut-être quelques nuages, mais il n'y a pas de pluie. En tout cas, pas avant la soirée ou tard dans la nuit. 18 degrés comme maximum. Dimanche, plus frais, mais du soleil, 13 degrés. Et lundi, bien là, les prévisions varient un peu. 30 % de probabilité d'averse selon Météo Média. Et ça grimpe à 60 % pour ce qui est des prévisions d'Environnement Canada. Température autour de 14 degrés. Et pour le début de la semaine prochaine, lundi, du temps frais, là, on se rapproche des 10 et un petit peu en bas même degrés. Et mercredi prochain, on prévoit une pluie abondante. Normalement, je devrais commencer par le débat des chefs, parce que c'est l'événement de la soirée puis de la campagne électorale. Mais je veux commencer par le dossier Desjardins, parce que je pense que ça concerne tellement de monde. Et ce qu'on a appris hier, principalement de J.E., travail remarquable en passant, il y a de quoi être sidéré. D'abord, concernant le suspect Sébastien Boulanger-Dorval, qu'on voit comme étant l'espèce d'ennemi numéro un depuis le début, qu'est-ce qu'on découvre? Ben d'abord, c'est pas un génie informatique, le gars, là. Il a réussi à extraire des données du système de Desjardins. Ça a commencé en 2017. Ça a commencé tranquillement. En copiant, donc, des infos personnelles, vos infos personnelles, sur des clés USB. Et ce qu'on comprend du stratagème, c'est qu'il a fait ça à la demande d'un de ses amis. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on retrouve différents types de bandits là-dedans. Présumés, il n'y a personne qui est formellement accusé. Mais vous retrouvez donc des individus qui avaient un intérêt commercial. Celui qui se place entre Boulanger-Dorval et les autres, c'est un gars de 27 ans, Jean-Loup Lelier-Mas. C'est un prêteur privé. Et donc, son chum Boulanger-Dorval serait allé lui chercher l'info. Les autres joueurs, il y a un courtier hypothécaire, Jonca, Mathieu, et François Baillargeon-Bouchard, qui est dans le domaine des finances. Et on pense que tous ces gens-là, donc, ont eu accès à vos informations, et j'insiste là-dessus, là, vos informations personnelles. Vous me direz pourquoi? Ben, ça leur permet de raffiner leur stratégie de marketing. Comment identifier des clients potentiels, probablement faire des propositions plus intéressantes. Ils avaient beaucoup d'infos, donc sur énormément de personnes. Et puis, vous avez le fraudeur classique. On est dans l'autre catégorie. Donc, des gens qui ont une seule préoccupation, c'est forger des identités et vous voler. Je vous donnais les exemples hier. Quelqu'un qui a fait une fraude de 600 000, quelqu'un qui est allé chercher des données chez Bell. C'est un problème grave. On va y revenir ce matin avec un cas d'un auditeur. Imaginez, là, lui, on n'est pas tous les jours nécessairement en train de surveiller nos transactions. Il s'aperçoit qu'il y avait 10 000 $ à peu près dans un CELI et que l'argent a disparu. Le CELI est vide. C'est une des victimes de Desjardins. Je ne fais pas le lien nécessairement entre les deux, là, mais quand il commence à regarder ça d'un peu plus près, contacte Desjardins, il s'aperçoit, puis là, le dossier est sous enquête, que l'argent a quitté son CELI vers un autre compte. Cet argent-là a été sorti, que l'individu a pu forger donc une nouvelle identité et aller chercher des prêts. Et probablement que c'est une fraude importante. On ne peut pas la quantifier pour l'instant. Mais il y a donc ces gens-là qui vont se créer des identités, alors que les autres, ils sont dans la business du prêt, puis ils ont bénéficié d'informations confidentielles, privées, pour faire plus de fric. C'est ça, l'objectif. Il y a deux choses qui étonnent aussi dans ce reportage. C'est que il semble que M. Boulanger-Dorval a fait ça pour des peanuts, là. Fait que tu dis, c'est pas un génie informatique. Il aurait vendu ses informations pour en ayant des cartes cadeaux de supermarchés, puis entre autres des restaurants Saint-Hubert. Hey, écoute, tu voles des données confidentielles pour des cartes chez Saint-Hubert. Je veux bien, là. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, il va falloir que Desjardins s'explique, là. Parce que tu regardes ça, là, puis tu as l'impression que le système était plus que vulnérable. Et que si ce gars-là a pu copier des informations sans être détecté rapidement, il y a comme un problème. Et on ne peut pas présumer des conclusions de l'enquête policière, mais Desjardins a une obligation de répondre. Mon premier commentaire ce matin, quand je vois ça, là, c'est de dire, est-ce que Desjardins avait vraiment pris toutes les mesures nécessaires pour protéger mes informations et vos informations? J'ai un méchant point d'interrogation. Donc, dossier super intéressant. Puis il y a d'autres détails qui s'ajoutent également dans la presse de ce matin. Bon, parlons du débat. C'était, somme toute, un débat mieux structuré qu'en anglais. Patrice Roy a fait un bon travail. Il y a eu un peu de cacophonie, c'est sûr, là, comme chacun de ces débats. Mais sur le fond, on n'a pas appris grand-chose, là. Et on comprend que la stratégie à 10 jours du vote, c'est de vendre sa salade, convaincre ses militants, peut-être influencer quelques indécis, puis essayer de faire mal paraître l'adversaire. Puis surtout, éviter les erreurs. Alors, quelques extraits. Notamment au débat, il y a le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, qui a reproché à Justin Trudeau d'accumuler les déficits. Et on sait qu'avec M. Trudeau, les déficits sont à perte de vue. Et voici donc la réponse de Justin Trudeau.
Les investissements dans les gens, dans les travailleurs, dans les familles, ça crée de la résilience dans les familles, dans les communautés. C'est pas de garder un gros pot d'argent pour quand les on en a besoin. On sait que de donner les investissements aux gens pour faire de la résilience, c'est ça qui va nous créer des opportunités dans les temps difficiles.
Il reste 30 secondes.
Bon, alors, voilà la justification de ces déficits imposants. Il y a aussi le chef du NPD, Jack Meeting, qui, lui, a voulu se positionner en disant « Regardez, là, les autres, là, ce sont des pro-pipeline, et moi, je ne le suis pas. »
Les spectateurs, ici, c'est M. Pipeline, ici, c'est M. Pipeline encore, et M. Trudeau, je pense aussi, c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jack Meeting. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est clair.
Et finalement, un autre extrait, et c'est le chef du Bloc, François Blanchet, parce qu'on s'attendait, en tout cas les experts croyaient que M. Blanchet serait attaqué sévèrement. C'est sûr qu'il a été pointé, mais ça n'a pas brassé tant que ça. Et bien évidemment, c'est toute la question de la laïcité et de l'option souverainiste. Alors Andrew Scheer lui a dit hier qu'il se servait du débat sur la laïcité pour faire la promotion de la souveraineté. La réponse de Yves-François Blanchet.
La dernière fois que j'ai vérifié, le 21 octobre, c'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est une élection fédérale où le Bloc québécois dit aux Québécois, n'envoyez pas à Ottawa des gens qui vont défaire ce que vous avez demandé à ceux de Québec de faire.
Alors voilà pour ce survol du débat qu'on va analyser un peu plus tard avec notre ami Bernard Drainville. Mais quand on regarde un peu la carte ce matin, on sent que le Bloc a le vent dans les voiles, ça c'est sûr. Que ça cause des maux de tête à M. Trudeau, que les conservateurs vont probablement en arracher aussi au Québec, et que le vote francophone est assez clairement en faveur du Bloc québécois. De façon plus globale, tout indique qu'on va se retrouver avec un gouvernement minoritaire. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le taux de participation à l'élection. M. Trudeau, en 2015, quand il avait promis de légaliser le cannabis, avait fait sortir pas mal de jeunes qui, normalement, ne seraient peut-être pas allés voter. Et dans le cadre de cette élection, est-ce que les jeunes sont déçus du bilan de M. Trudeau, ce pipeline là, qui lui colle à la peau? Les Verts, le NPD, le Bloc québécois au Québec. Alors, il y a quand même des enjeux, mais le taux de participation va donner, je pense, une bonne indication du résultat final en soirée. 6h13, quels sont nos problèmes, monsieur? Merci beaucoup. On va parler d'obésité. C'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Et aujourd'hui, vous avez 223 pédiatres du Québec qui signent une lettre adressée au premier ministre Legault pour, évidemment, lui demander des mesures. Alors, selon les derniers chiffres de l'Institut national de santé publique, 10% des enfants et adolescents du Québec seraient obèses et 30 % d'entre eux auraient de toute façon un problème de poids, ce qui est énorme, uniquement chez les 3 à 6 ans. Ces jeunes, ce 3 à 6 ans, on dit qu'il y aurait donc près de 60 000 jeunes étant atteints d'obésité ou d'embonpoint. Et c'est en croissance, avec un impact sur la santé, évidemment à venir, des problèmes récurrents, que ce soit le diabète, des problèmes de nature cardiaque. Alors, donc, ces médecins-là sont, bien sûr, très inquiets et recommandent, entre autres, de taxer les boissons sucrées. Ça, c'est tout un débat. Pour en avoir parlé avec beaucoup d'experts, parce que c'est un thème qui revient, il y en a qui considèrent que ce n'est pas une bonne idée. Le principe étant que si je mets ça plus cher, ben les gens vont hésiter à acheter des boissons sucrées et donc vont consommer de l'eau ou quelque chose qui est meilleur pour la santé. Moi, je ne suis pas certain de ça. Parce que ce que ça va faire, c'est que les gens qui, par exemple, sont plus pauvres, qui boivent beaucoup de boissons sucrées, ben ils vont s'appauvrir en buvant. Je ne suis pas sûr qu'ils vont prendre le virage nécessairement. Là, c'est un débat qu'on pourrait faire là-dessus. Mais l'autre aspect, dans les différents rapports qui sont sortis au sujet de l'obésité, il y a beaucoup de patients qui trouvent que les médecins leur font la morale et sont pas très, comment dirais-je, sont pas très enclins à les écouter ou à les entendre. C'est comme si l'obésité, c'était juste un manque de volonté. Parce que c'est reconnu maintenant comme étant une maladie chronique. Puis il y a différents témoignages qu'on peut lire de gens qui disent « Je voulais avoir une chirurgie bariatrique, mon médecin ne voulait pas m'encourager dans cette voie-là. » Alors c'est comme si, pour certains médecins, un patient obèse, là, moins intéressant ou en tout cas manque de sympathie à son égard. On va recevoir Dr Julie Saint-Pierre qui est pédiatre et qui dirige justement le Centre d'excellence en obésité infantile du Québec. Il y a aussi le Québec qui va en appel de la décision concernant le cannabis. Et c'est pas nécessairement une très grande surprise, là, cette décision, hier d'aller devant la cour d'appel, parce qu'on sait que François Legault, Lionel Carman, ils veulent que les Québécois n'aient pas le droit de cultiver des plants de pot à domicile. On sait que selon la loi fédérale, c'est 4 plants. Et Québec dit qu'on veut les interdire. Et là, c'est un débat. Et là, comme citoyen, tu te places où? C'est sûr que si tu respectes la loi fédérale, ben, tu ne peux pas avoir une infraction criminelle, mais tu peux peut-être avoir une amende pour avoir enfreint un règlement à venir du gouvernement du Québec. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je regardais ce matin dans la Voix de l'Est, alors que le service de police de Granby souhaite revoir tout ce qui concerne l'encadrement de la culture de cannabis à des fins médicales. Alors, ce que la police de Granby dit, puis c'est vrai partout, là, les permis de production, c'est du gros n'importe quoi. Et qu'en plus de ça, le registre, on devrait créer un registre des détenteurs de ces permis pour savoir qui a quoi sur le territoire. Puis quand tu permets à des fins médicales d'avoir jusqu'à 200 plants de cannabis, là, je sais, vous allez me dire, les experts, que c'est pour faire de l'huile, puis ça en prend beaucoup. Hey, on se rend compte que dans les faits, là, puis on a présenté quelques reportages là-dessus, il y a eu beaucoup de cas où, disons que, à des fins médicales, c'était des certificats de complaisance qui venaient de médecins de l'extérieur du Québec, puis qu'en plus, c'était de la production qui était revendue, puis c'était pas pour des fins médicales. Alors donc, le gouvernement du Québec qui a décidé d'aller en appel sur cette question-là. Aussi, ce matin, on va parler de l'industrie du taxi. La loi a été adoptée hier. Il y a eu un compromis, quelques compromis, des amendements de dernière minute. En gros, là, puis je fais des chiffrons, là, Québec dit « je vous donne 800 millions ». Les chauffeurs de taxi réclament 1,3, 1,4 milliards. C'est un fossé et ça ne sera pas comblé. D'une part. D'autre part, on veut libéraliser l'industrie. Et je crois comprendre que dans les amendements, la notion de quota va être débattue. Ce ne sera pas à travers le Québec, mais on pourrait donc plafonner le nombre de véhicules qui transportent des gens. Et là, ça veut dire les Uber de ce monde, ça veut dire bien sûr les taxis conventionnels qui conservent un certain nombre de priorités. Je reçois vos courriels, je lis ça, les chauffeurs sont en tabarouette. Ils se sont fait prendre dans une spirale de permis et il y en a qui ont acheté ça pas trop cher, qui comptaient là-dessus pour leurs vieux jours puis qui s'aperçoivent que ça n'arrivera pas. Puis tu as ceux qui se sont endettés pas mal pour acheter des permis dont la valeur a été gonflée. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est l'État québécois qui a créé ce système-là. Et là, ce qu'on dit aux chauffeurs, ben, on va te donner 800 millions. Et je lisais l'essor dans la presse ce matin, pas grand ministre de la CAQ qui était bien excité à l'idée de faire un chèque puis de dépenser 800 millions pour l'industrie du taxi. Mais la loi est passée. Et d'ailleurs, sérieusement, les amendements de Québec solidaire, là, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est d'avoir des véhicules électriques en 2050. On est en 2019-2020. N'importe quel ministre peut s'engager à ça. Puis d'avoir une espèce de portrait de Uber, de l'impact sur une période de 3 ans. Disons que ce sont des amendements assez faciles à accorder. Et un mot aussi sur le REM à Ottawa. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils ont des problèmes majeurs depuis le début. C'est le même consortium qui a implanté avec des retards là, et spectaculaires. C'est SNC-Lavalin pardon, et Alstom. Et là, c'est des retards, des problèmes de fonctionnement. Et même le PDG, vous voyez ça hier, qui a fait une conférence de presse, PDG de Société de transport en Ontario, qui dit on s'excuse, là, c'est pas acceptable. Et ce sont les mêmes wagons qu'on va utiliser pour le REM. Là, c'est sûr que officiellement, la Caisse de dépôt, puis le consortium, ça, là, c'est revenu à quelques reprises depuis les derniers mois, nous disent « Inquiétez-vous pas, les Québécois, ce ne sont pas les mêmes wagons, ce ne sont pas les mêmes specs, c'est pas le même modèle. » Mais vous irez dire ça aux gens d'Ottawa, là, parce que c'est vraiment là, un départ plus que chaotique. On chiale contre nos trains de banlieue qui sont parfois un peu tout croche. Mais Dieu sait qu'à Ottawa, là, c'est pas une farce. Là. C'est une porte qui est bloquée, puis ça vient comme complètement bousillé. Le système complet d'ouverture des portes de la série de wagons. Là. Puis là, des retards, puis des problèmes de logistique. 6h22. On va aller voir ce qui se passe sur la 13, monsieur.